Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau regard sur les quartiers de Montpellier. Après les Arceaux, la Paillade, Figuerolles, dont nous avons parlé précédemment, nous allons aborder un autre quartier. Mon invité, Jean-Marie Kies, je ne vais pas lui proposer de nous parler de deux de ses autres vies, ni de spécialiste de l'éducation et de l'orientation, auteur de plusieurs livres sur ce sujet, ni d'auteur-compositeur passionné par les chansons de la mer et des ports. Nous prendrons toutefois le large, mais seulement du côté de Saint-Roch et de l'Écusson, le quartier dont il préside le comité. Il y a adhéré il y a 35 ans, il y le préside depuis 10 ans, autant dire qu'il sait bien ce dont nous allons nous parler. Jean-Marie Kies, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Donc, racontez-nous votre Montpellier. Commençons par votre façon personnelle, particulière, de voir la ville. Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qu'ils figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement, auxquels vous êtes attaché? Vos lieux favoris, ceux que vous indiquez à vos amis?
Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices, et puis les amoureuses et les amoureux de l'Écusson, bien entendu.
Il y en a un certain nombre.
Il y en a pas mal, oui, qui sont passés depuis un bon millénaire, quand même. Non, quand même pas à ce point-là. Alors, mes lieux préférés de Montpellier, vous me surprenez un peu par votre question.
Ah, vous avez bien la réponse à la question.
Oh, bien sûr que je vais répondre à la question. Pour moi, à Montpellier, un des symboles de Montpellier, c'est la statue des Trois Grâces. Voilà. Donc, c'est l'endroit où on se retrouve, où on se rencontre. C'est l'endroit où on passe. Moi, je passe tout le temps.
On traverse la place. Et on frôle les Trois Grâces.
Par tous les temps, et en faisant attention quand il pleut de ne pas tomber, parce que des fois, ça glisse.
Il paraît que ça ira mieux avec...
Ça va être mieux, c'est sûr. Et donc, voilà, parce que finalement, les Trois Grâces... sont les filles de Dionysos, il faut le savoir. Donc Dionysos était le dieu du vin. Nous sommes dans une région viticole. Ça, c'est ce que j'adore et j'apprécie énormément sur Montpellier. En plus, c'est la deuxième grande ressource économique de la région, il faut le savoir. Elles sont aussi les filles de Vénus. Eh bien, on peut dire aussi que tout ce qui préside à la beauté se trouve aussi à Montpellier.
Ah, il paraît que Truffaut a choisi Montpellier pour tourner L'homme qui aimait les femmes. Ça, il l'a dit, mais ça, c'est peut-être un mythe qui se perpétue depuis lors.
Oui, je crois, oui, c'est ça. C'est très beau, cette scène où, de démarrage dans une des rues de Montpellier où on voit des jambes de
toutes jeunes femmes.
Et oui, qui arpentent les rues de Montpellier. Mmh. Je ne sais pas si Montpellier est le centre du monde. Il paraît que c'est Perpignan. Mais pour le quartier Saint-Roch, oui, sans doute. Donc. Et puis les Trois Grâces, en fait, il y en a une autre qui est la Brillante. Hein. Et Montpellier, effectivement, est brillante à la fois par ses activités culturelles, mais aussi par la beauté de son architecture. Et puis de ce qu'on y trouve au niveau culturel, par exemple. Et puis, pour terminer, Montpellier, pour moi, c'est la joie de l'âme, c'est-à-dire de l'intellect également, hein, des arts bien sûr, mais aussi de l'intellect avec tout son environnement de recherche. On l'oublie parfois, mais c'est aussi la ville du grand laboratoire, hein, de robotique et d'informatique, et c'est un sujet qui est très d'actualité.
Ce que vous nous confiez, c'est ce que vous dites à vos amis ou parents de passage qui ne connaissent pas au point Montpellier, qui viennent, quand vous, sans être rémunéré par l'office de tourisme, vous faites un peu le guide, hein, que leur dites-vous, vous leur dites à peu près ça?
En général, on commence bien par les Trois Grâces, oui, avant de plonger dans l'Écusson et dans le cœur de l'Écusson. C'est quand même, c'est l'endroit le plus ancien de Montpellier, la salle Pétrarque. Hein. Tout cet hôtel-là, c'est sans doute le premier lieu d'habitation sur la colline.
Du Mons Pelluarum, donc de l'époque médiévale.
Oui. Oui, mais même à l'époque des Romains, sans doute. Et pour une bonne raison, c'est ce que les gens souvent ignorent quand ils viennent à Montpellier, c'est que la butte est une énorme source, puisque c'est une nappe phréatique. dont on peut voir d'ailleurs l'émergence hein, dans les bains juifs, n'est-ce pas ?
Oui.
À la piscine des bains juifs. Voilà, ce sont des endroits aussi, moi, que j'apprécie particulièrement. Et puis, bien entendu, notre endroit, nous, essentiel, c'est la place Saint-Roch, où on effectue beaucoup d'activités. Et le square Bagoué, bien sûr, hein, qui est à l'ombre de l'église, surtout l'été.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a, vous connaissez d'autres villes, qu'est-ce qui, selon vous, caractérise distinguement Montpellier ? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui est, le facteur déterminant qui donne, son style, oui, sa manière d'être, peut-être, et de se perpétuer.
Moi, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Je continue d'ailleurs à voyager. Donc, je connais beaucoup de villes, y compris en France, bien entendu. Montpellier, pour moi, est une ville choisie. Moi, je suis originaire de l'Ouest, mais après, j'ai travaillé un peu en Normandie, en Bretagne, dans les Antilles françaises, etc., à La Réunion. C'est une ville choisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est à Montpellier que je veux aller, parce que je connaissais des gens à Montpellier. Et je savais aussi que pour mon activité professionnelle, c'était très bien. Et pour les enfants aussi, c'était un endroit d'université, d'école, etc. Donc, et ne parlons pas aussi de l'environnement sanitaire, des hôpitaux, des cliniques. C'est quand même très particulier sur Montpellier. Et moi, je n'ai pas été déçu.
Voilà. Alors, je le dis clairement. Plus, bien sûr, l'environnement proche, la mer, la garrigue à portée.
Écoutez,
c'est même pas très loin.
Oui. Alors là, de ce côté-là, on ne va pas faire la publicité de Montpellier.
Voilà. D'autant on plus que
les choses changent un petit peu parce que moi, je veux dire qu'à l'époque où nous sommes arrivés à Montpellier, nous étions ravis de pouvoir sortir et de rentrer très facilement de la ville. Ce qui n'était pas le cas à Marseille, ce qui n'était pas le cas à Lyon et dans d'autres villes françaises. Et c'est vrai qu'actuellement, les choses se complexifient un petit peu pour l'entrée et la sortie du centre-ville. Maintenant, qu'est-ce qui nous séduit aussi à Montpellier ? C'est l'immense plateau piétonnier qui n'a pas fini de s'étendre, hein, puisqu'il s'étend maintenant jusqu'à la place Saint-Denis. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Et les gens viennent pour ça. Hein. Il faut savoir que les gens
s'installent. Le plaisir de déambuler.
Voilà.
C'est ça, le plaisir de déambuler en faisant des courses ou pas, en s'arrêtant à une terrasse de café ou pas.
Et voilà, on déambule tout le temps à Montpellier. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le centre-ville, hein, donc près de la cathédrale. Et j'ai toujours
été... À l'Institut universitaire de formation des maîtres, c'est ça ?
Ça aussi, travaillé à l'IUFM, j'ai travaillé aussi au rectorat, j'étais directeur de l'ONICEP, l'Office national d'information. Et donc, j'avais mon bureau qui donnait sur la place Candolle. Donc, j'avais les Gitans à l'époque, qui nous faisaient des concerts toute la journée et toute la soirée. Je veux dire, c'est quand même un lieu de vie extraordinaire que ce centre. Et donc, je parcourais Montpellier soit en vélo à l'époque...
Avant que ça soit un peu plus
absolument
branché.
Je dois avouer que je ne montais pas la rue de l'université, mais je la descendais assez
vite.
Elle est assez raide. Mais, et puis à pied, bien entendu, voilà, plusieurs fois par jour.
Alors maintenant, on va parler quand même de votre quartier, Saint-Roch-et-Cusson. Et puis tout simplement, quelles sont les activités habituelles, je dirais, on parlera des grands sujets ensuite, qui constituent, je dirais, une partie de la raison d'être du comité. Donc, qu'est-ce que vous faites de beau et de bon ?
Bien, un comité de quartier, c'est une association. Donc il faut bien comprendre cela. C'est vrai que les comités de quartier existent depuis, pour le mien, depuis le Moyen-Âge.
Ah oui ?
Oui, déjà, il y avait déjà un comité d'étudiants pour... Sur Montpellier, et donc on est quand même les héritiers assez directs de ce genre d'activité.
Sans porter la faluche, le béret traditionnel autrefois des étudiants.
Il y a des gens qui le portent encore, hein. Moi j'en ai vu, oui. Mmh. Oui, oui. Et tout à fait. Non, alors c'est une vieille tradition, surtout à Montpellier, puis Georges Frêche les avait remis donc à l'honneur, hein. Et il se déplaçait souvent dans les différents comités de quartier. Mais c'est une association, elle est complètement indépendante, en fait, de la vie politique, elle n'est pas de la cité.
Combien comptez-vous de membres à ce jour ?
Alors, nos membres varient. Alors, avec le Covid, on avait eu quand même une petite baisse, mais actuellement, on est autour d'une soixantaine. Ça nous arrive de monter pas loin de la centaine, mais non, on n'a jamais dépassé les 100.
D'accord.
Mais ce sont, entendons-nous bien, c'est pas un réseau, parce que si je gardais en réseau tous les gens
ça
qui
ferait
sont
plusieurs
passés,
centaines,
c'est pas
voire plus.
Non, ce sont vraiment des gens actifs. Qui sont engagés, qui viennent pour des activités et qui payent une cotisation. Voilà.
D'accord. Alors, activités donc que vous proposez au fil de l'année ?
Oui, beaucoup d'activités, parce que en fait, notre but, nous, c'est de rendre plus agréable la vie dans cette partie de Montpellier. Alors, on ne travaille pas tout seul. Bien sûr, on travaille avec les 4 autres comités de quartier de l'Écusson. Et puis, on travaille beaucoup avec les faubourgs aussi, hein, bien entendu, parce que nous sommes tous très interdépendants. Ce qui fait que, depuis plus d'une dizaine d'années, on a travaillé sur les problématiques de mobilité, de circulation, de transport public, les problèmes automobiles, et tous ensemble. Sur ce sujet-là, je veux dire que la plupart des objectifs que nous nous étions fixés ont été, je crois que les 5 grands objectifs qu'on s'est fixés il y a 6 ans exactement, ont tous été atteints. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais nous pensions qu'il fallait fermer le tunnel de la Comédie aussi. Nous l'avions écrit et dit.
On va aborder ces sujets. Alors.
Et finalement, nous pensions que ça ne se ferait pas, parce que c'est un axe de communication très important. Et finalement, ça s'est fait. Voilà, curieux.
Alors, il y a des activités de type convivial, je ne sais pas quoi, des repas, des lotos, je ne sais quoi, que vous devez pratiquer, mais on peut les évoquer. Et puis, on va quand même s'attacher principalement au grand sujet qui concerne, je dirais, tous les auditeurs, qu'ils habitent ou pas de quartier. Alors voilà, activité habituelle, je dirais, d'une association, à caractère festif ou convivial. Ça, c'est le cas, j'imagine. Et ensuite, les grands sujets. Alors, j'en avais noté quelques-uns, parce que, bon, comme chacun le sait, bon, ce quartier a connu quelques grands aménagements ces dernières années. La rénovation de la Grande Rue Jean-Moulin, les Halles Lessac et l'aménagement de la Place Lessac. Vous avez pris votre part, je dirais, au moins dans la réflexion et dans la formulation de propositions sur ces sujets.
Écoutez, je crois que nous avons été les premiers, j'ai la preuve, à écrire, c'était Madame Mandrou qui était maire de Montpellier à l'époque, qui est née dans l'Écusson, il faut savoir. Hein.
Elle l'a raconté ici même à ce micro.
Tout à fait. Donc, nous avons écrit à Madame Mandrou, le conseil d'administration lui avait demandé de rénover la place Lessac. Bon, dans la rénovation, il y avait bien sûr la rénovation du bâtiment des Halles. Et je crois qu'on a été les premiers à poser cette question-là, ce qui ne nous a pas fait que des amis, hein, bien entendu. Il a fallu aussi par la suite convaincre les commerçants, convaincre des gens de la chambre de commerce, etc. Oui, on a été impliqués assez rapidement, surtout donc par Michael Delafosse, qui était chargé de l'urbanisme à l'époque. Et on avait fait déjà des plans hein, d'architectes. Et puis, après, ben, M. Sorel a saisi la balle au bon. Bon, c'est vrai que les Halles, les sacs étaient en perdition. Elles s'effondraient hein, carrément. Donc, c'était
oui, le bâtiment était rénové, plus oui. le camembert de parking voilà. Au-dessus. Ouais.
Après, la question était de savoir si ça devait être rond, si ça devait être carré, s'il fallait garder les commerçants tels quels ou pas garder les commerçants tels quels. Il y a eu des projets de mettre un parc à la place. Il y a eu plein de choses. Est-ce qu'il fallait garder le parking aussi voilà. Bon, ouais, les choses ont pris leur temps. Oui, on a été très impliqués sur ce sujet-là. Et je suis content du résultat. Je crois que tout le monde est content. Et ça crée un phénomène important. C'est un déplacement d'un certain nombre d'activités depuis le cœur de l'Écusson vers cet endroit. Ça le dégage un peu, hein, l'Écusson, d'une densité hein, de visiteurs.
Vous parlez des commerces ou des cafés et autres qui se
de
sont
tout.
Développés
des commerces
autour
et cafés, mais surtout des endroits de désirabilité, c'est-à-dire des endroits où les gens veulent venir et veulent passer. C'est devenu l'endroit le plus passager de Montpellier.
Ah oui, il y a des chiffres qui le tendent à le démontrer.
Oui, il y a des chiffres qui le démontrent. C'est devenu l'endroit le plus passager, et donc en fait, c'est axe entre les Halles, les Sacs et la gare. Et nous voudrions, et nous souhaitons, et nous l'avons demandé, à ce que donc, l'avenue qui rejoint la place de la Comédie soit aussi apaisée et devienne un axe essentiel.
Victor Hugo ?
Oui, Victor Hugo, oui. C'est pour ça que la fermeture du tunnel est une bonne chose, mais est-ce qu'on est obligé de garder la configuration actuelle? Voilà la question qui est posée.
Oui, on peut imaginer qu'il y a d'autres aménagements plus tard qui seront à l'étude, ce n'est décidé.
Oui, oui.
D'accord. Alors, il y a aussi la question de la Grange à Moulins aussi, donc, qui a été pour une bonne partie rénovée. Vous avez mis, si ce n'est la main à la truelle, mais en tout cas la main à la pâte ou la main au concours des idées.
Ah, ça, c'était... Bon, s'il y avait que la rue Jean Moulin rénovée, il y en a bien d'autres. Hein. Les cuissons souffrent d'une forme de vétusté. Il faut savoir que, par exemple, le système de tout à l'égout n'existe quasiment pas dans les cuissons. Hein. Après, on se plaint que la nappe phréatique soit polluée. Il y a des raisons. Hein. Le puits de Saint-Roch, l'eau n'est plus buvable depuis plusieurs années maintenant. Hein. Donc, il y a des rues. Mais cette rue Jean Moulin, oui, ça a été un symbole donc pris par le maire de l'époque, Philippe Sorel. Et il fallait le faire. Il fallait le faire et c'était pas gagné, je peux vous dire, parce que Montpellier est un véritable gruyère. C'est-à-dire, sous les rues, bien sûr, il y a les réseaux qui circulent, et des réseaux dont certains étaient très anciens, mais également, on a des caves qui traversent carrément l'avenue, et il a fallu faire un répertoire, répertorier tous ces endroits-là, avant de commencer à travailler la rue. En fait, le seul point sur lequel on n'a pas été consulté, c'était le revêtement. Je ne sais pas pourquoi.
Ah oui, bon, il a suscité un débat aussi, quand les promeneurs l'ont découvert.
Oui, nous l'avons découvert, là, je peux le dire.
Voilà. Bon, on a compris que le Green Carter a son mot à dire, mais pas tout le temps et pas surtout. Alors, autre sujet, au début de l'année, vous avez exprimé votre insatisfaction sur la collecte des déchets. Où en est-on aujourd'hui, où va-t-on, en tout cas, sur cette question qui suscite souvent des polémiques, des critiques, hein, comme chacun le sait. Alors, voilà, collecte des déchets, encore une fois, dans les cuissons, avec les spécificités que cette collecte, les commerçants, les cartons, etc., cette question met sur la table.
Alors, on a parlé de la qualité de vie dans les cuissons, parce que c'est notre sujet, hein, comité de quartier. Nous ne sommes pas un comité de défense, on est un comité pour une amélioration donc des conditions de vie dans le quartier et pour que des gens viennent, et notamment des familles. On en parlera tout à l'heure, justement, dans le cadre de la population de cet écusson. Mais là, vous me posez une question brûlante, puisque j'ai une réunion tout à l'heure à 17h sur le sujet avec mes amis de l'écusson, mais également de certains collègues des faubourgs qui sont touchés par ce problème-là. C'est un sujet qui il est pas polémique, il est un sujet qui nous met en colère, en fait, hein, actuellement. Je sais qu'il y a une...
C'est-à-dire, vous rompez avec votre pusillanimité habituelle, je dirais, sur ce sujet, votre bienveillance que j'ai cru percevoir dans vos propos antérieurs. Là, c'est, vous dites ça
ne va pas. Ah oui, non, mais là, c'est pas possible. Là. Non, c'est pas possible. Déjà, les problèmes de pollution automobile, c'était pas possible. Vous pouviez pas quand même vous réveiller tous les matins et passer la main, le doigt sur votre table de nuit qui était noire quand même. Hein, il faut le savoir, hein, chez nous. Hein. Donc, ça, c'est derrière nous. On peut respirer, enfin. Mais les problèmes d'hygiène et de propreté, enfin, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Donc la ville avait mis une expérimentation dans mon quartier, le quartier Saint-Roch. Je le dirais même sans nous demander notre avis. Hein. Donc nous l'avons découvert.
Là, ça demandait votre avis sur le choix du quartier.
Voilà. Oui, et puis même de ce qui allait se passer. On l'a appris comme tout le monde. Et je dois dire que cet été, ça ne s'est pas bien passé du tout déjà. Donc nous avons prévenu la ville que ça ne marchait pas, qu'il y avait des gros problèmes.
C'est-à-dire la manière dont les collectes sont organisées, leur horaire, les moyens affectés à la collecte, c'est ça, grosso modo, qui pose question.
C'est un sujet très vaste, sur lequel je pense que les services de la ville sont embêtés, parce que ce sont des décisions nationales qui ont été prises, hein, notamment concernant la collecte des recyclables. Et puis bientôt, on va avoir aussi une nouvelle collecte pour les déchets. Hein. Ils ont été pris de court avec cette affaire-là. Et donc, ils ont essayé de faire quelque chose, mais c'était quand même pas terrible. Et puis en plus, il y avait effectivement déjà des problèmes, hein, de propreté. Il y avait des problèmes d'horaire, de collecte, entre les gens qui se lèvent tôt, les gens qui se lèvent tard, etc. C'était pas simple. Mais c'est vrai que cet été, c'était pas au top. Et que tout d'un coup, le 27 décembre, nous avons reçu une invitation à participer à une réunion publique qui devait se tenir le 29 décembre. Je peux vous dire que le 29 décembre, on était 8. Mais on nous a mis devant le fait accompli que le 4 janvier, puisque c'était la loi nationale des nouveaux systèmes, il fallait que ça devait se mettre en place au 1er janvier national. Donc le 4 janvier, le contrat avec l'entreprise Nicolin a été reconduit et que le nouveau système était étendu. Voilà. Alors maintenant, il a été étendu. Ça fait donc depuis le 4 janvier, ça fait plus de 2 mois. Les débuts ont été, je dirais, catastrophiques, oui, chaotiques. Oui. Et ça, on aurait.
Et ça s'est amélioré depuis ou encore. Bon, on est pas. Selon vous, en tout cas, on n'est pas arrivé là où il faudrait.
Donc, nous avons une réunion entre nous et nous avons une réunion avec la ville et les services de la ville. Et j'espère les services de Nicolin, qui était absent à la réunion du mois de décembre. De façon à ce qu'on puisse s'expliquer et qu'on puisse effectivement parler des points sensibles et des points critiques.
Et des solutions à apporter pour le coup.
Des solutions.
On n'était pas une association de défense ou de critique, mais de contribuer, à l'élaboration de la décision publique.
Oui, nous, on a plusieurs interventions de nos riverains du quartier ou des commerçants aussi, d'ailleurs, qui ont fait des pétitions à certains endroits. Parce qu'ils sont aussi assez touchés par ce problème-là. Et oui, c'est une chose dont on va parler, on va mettre les choses sur la table, et puis j'espère que ça va continuer à s'améliorer, et que ça sera encore mieux que ça n'était avant le nouveau système. C'est surtout ça qu'on voudrait, nous. Hein. Écoutez, c'est pas la peine d'avoir des machines extrêmement compliquées qui aspirent les rues, si on n'aspire qu'une partie des mégots. Par exemple.
Donc des progrès visibles, quoi, mesurables.
Oui, il nous faudrait qu'ils soient visibles. Ça, je peux vous assurer que des photos, actuellement, on en a plusieurs centaines de ce qui s'est passé. Et puis, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça s'améliore. Voilà. Parce que vous comprenez, ce qu'on craignait, nous, c'était ce qui était arrivé cet été, c'est-à-dire que l'accumulation d'ordures et de déchets à certains endroits attire des nuisibles aussi.
Nous surparlons des rats.
Il y en a. Ouais. Il y en a beaucoup dans les cuissons, hein, faut pas rêver. Hein.
Toutes les villes.
Il y en a. Mais on ne voudrait pas une prolifération ni qu'ils commencent à se balader dans les rues comme c'est le cas de temps en temps quand il pleut beaucoup et qu'ils sont en train de fuir devant la pluie.
Alors, autre sujet aussi complexe et qui, bien sûr, suscite des attentes, voire des préoccupations des habitants, la sécurisation, la tranquillité nocturne. Là aussi, vous êtes nécessairement attentif à ça, mobilisé. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui des conditions dans lesquelles ce sujet, dont la municipalité, me semble-t-il, s'est saisie ou dit se saisir? Comment vous voyez les choses?
Alors, c'est amusant parce que, justement, au Moyen-Âge, c'était déjà le sujet.
Ah oui?
Oui. Les nuisances nocturnes des étudiants.
Qui faisaient la fête au départ, des braves habitants.
Voilà, qui criaient la nuit et qui buvaient partout, etc. Bien. C'est un sujet récurrent. J'ai retrouvé des comptes rendus d'il y a une vingtaine d'années du comité de quartier où déjà le sujet était posé pour la place Saint-Roch. Bien. Moi, quand je suis arrivé, j'ai travaillé avec le comité de quartier au conseil d'administration bien avant. Mais quand j'ai été élu président il y a 10 ans maintenant, j'ai été servi. C'est la fameuse nuit où la police a débarqué sur la place Saint-Roch et où elle était obligée de battre en retraite parce qu'elle s'est fait attaquer par tous les jeunes qui étaient là.
Ah oui,
et qui n'ont plus osé revenir. D'accord. Et donc après, on envoyait systématiquement les CRS ou la gendarmerie. Donc moi, j'ai vécu cette période-là avec les riverains. Ça nous a lié d'ailleurs, cette affaire. Et puis, effectivement, petit à petit, on a vu mettre en place des brigades nocturnes qui se déplaçaient, n'est-ce pas? D'abord, elles sont restées dans leur voiture, puis ensuite, elles se sont déplacées. Il n'y avait pas que chez nous, place Saint-Roch, place Candolle, etc. Bon, disons que c'est pas terminé. Nous tenons tous, les adhérents de l'association, tiennent à ce que ça reste des endroits conviviaux et festifs.
C'est-à-dire, c'est pas la police à chaque coin de rue qu'il faut paraître la solution unique, en tout cas, pour aller vers ce que j'ai appelé, comme ça me semble devoir l'être, la tranquillité nocturne.
Bah, écoutez, en plus, on est dans un secteur protégé. Donc, nous n'avons pas le droit d'installer de climatisation, il faut savoir ça.
Alors, protégé dans le thème de conservation du patrimoine.
Oui, du patrimoine. Ouais. Tout est classé. Hein, même dans certains quartiers de Montpellier, du sud de l'Écusson, les intérieurs des immeubles sont classés. Donc, on ne peut pas installer de climatisation et nous tenons, nous, à avoir des gens qui viennent ici, qui sont des familles, des gens qui travaillent. Eh bien, ces gens qui travaillent l'été, ils ont besoin d'ouvrir leurs fenêtres. Voilà. Et ça, ça a été un souci. On avait différentes personnalités de Montpellier qui habitaient autour de la place Saint-Roch, dont des chirurgiens, des médecins. Ils ne pouvaient pas prendre leur travail correctement le matin. Donc, vous voyez, c'était quand même des choses importantes. Alors, c'est un quartier qui s'est apaisé petit à petit, ce qui n'empêche pas son aspect festif.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure d'autres sujets. Il y en a un concernant, je dirais, la population, les habitants. Et est-ce que là aussi, on vous prenait en compte la caractéristique du quartier, beaucoup d'étudiants notamment? Et comment, selon vous, en termes d'aménagement ou d'offre de logement, le quartier doit-il évoluer?
Oui. Alors, c'est aussi ce qui me plaît dans ce quartier. C'est la jeunesse.
Hein, c'est un quartier. Alors, vous avez été longtemps enseignant, donc vous avez gardé la fibre.
C'est un quartier extraordinaire au niveau de la jeunesse. On a, vous vous rendez compte, non, mais même, il n'y a pas que la jeunesse. En fait, quand vous parliez de plusieurs populations qui cohabitent, ben oui. On a les jeunes étudiants qui représentent presque 70% hein, de l'habitat du quartier.
70%?
Oui, à peu près. Oui.
Ah, c'est énorme.
C'est énorme. Et ça nous fait une moyenne d'âge du quartier en dessous de 30 ans, il faut savoir.
Ah, mais c'est bon, on peut être vieux.
Bien, c'est sympa.
On peut être vieux dans ce quartier. Et,
voilà.
Donc,
et les personnes plus âgées ne se plaignent pas du tout d'avoir plein de jeunesse autour d'eux. Hein, pas du tout, hein, absolument pas. Donc on a aussi de l'autre côté donc, des personnes plus âgées. Mais en termes de cohabitation, nous avons les commerçants. Donc le comité de quartier est une association de riverains, mais dans laquelle nous avons aussi des commerçants. Il y a eu beaucoup de changements en quelques décennies, parce qu'avant, les commerçants habitaient sur place. De plus en plus...
Ils habitaient au-dessus du magasin.
Oui, ils habitaient au-dessus du magasin. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en a quasiment plus. Donc, en fait, ils arrivent le matin, ils repartent le soir, quoi. Hein. Donc, ça a changé aussi, tout ça. Mais enfin, nous avons des commerçants, des gens qui travaillent. Il y en a beaucoup, hein, qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Comme d'ailleurs c'est le cas dans tout Montpellier. Et puis, nous avons aussi les gens qui viennent en visite, hein, n'est-ce pas? Et ça,
bien
c'est
sûr.
Pas négligeable. Donc, vous voyez qu'on a une...
En visite à la fois, bon, des gens qui habitent d'autres quartiers,
oui.
Qui habitent la région, ou des touristes
tous
qui
les
viennent.
Touristes, oui. Et tous les touristes. Donc, ça représente là une cohabitation alors, intéressante. Regardez la rue de la Loge, à certaines heures ou certains week-ends, le samedi notamment, c'est incroyable. C'est une foule qui va, qui vient... ça, c'est une des caractéristiques les plus intéressantes du quartier. Parce que sur l'Écusson, vous avez quand même des quartiers qui sont moins attractifs, qui sont plus gentrifiés, comme on dit.
Oui, c'est ça. Plus bourgeois, on va dire, pour qu'on comprenne.
Plus bourgeois, c'est une autre dénomination. Mais ici, sur l'Écusson, il y a vraiment de tout. On a énormément de commerces. On a, je ne sais plus par 100 mètres combien il y a de commerces. Il y a des statistiques qui ont été faites sur le sujet. C'est énorme, quoi. Hein. Voilà. Et puis, c'est l'endroit le plus dense en termes d'habitat de Montpellier.
Donc, et on va finir là-dessus. Est-ce qu'on peut retenir de vos propos cette idée de gérer cette diversité, ces mélanges de populations? Est-ce que c'est la voie vers laquelle, avec d'autres, vous travaillez, quoi, hein,
oui.
Plutôt que dans un système, je dirais, de mise de côté, d'exclusion, ou de continuer à faire en sorte que ce quartier, c'est le vôtre, mais c'est celui aussi, c'est le quartier de beaucoup de ceux qui viennent y faire des courses, se balader, etc. Quoi.
Voilà. Alors, on ne veut pas de quartier musée, hein, ça c'est important. Donc, on veut des habitants. Donc il nous en faudrait encore plus, avec des enfants aussi. Donc, ce qui fait que, par exemple, il nous faudrait une maison de quartier que nous n'avons pas. Hein. Il n'y a pas suffisamment. Les crèches sont trop éloignées aussi. Ça pose aussi des problèmes. Et oui, on travaille pour tout le monde. Alors, par exemple, il y a quand même un des sujets actuels très importants. C'est le problème de la chaleur l'été. Et le problème de la chaleur l'été, eh bien, nous avons... On était le troisième quartier de Montpellier à travailler sur le sujet de microfleurissement. Donc toute la rue Rouchet, par exemple, qui est une rue que personne n'empruntait plus, Nous l'avons avec les riverains, tous les riverains, puisque tout le monde y a participé, et les commerçants de la rue. Bon, on a fait des micro-fleurissements qui continuent à fonctionner. Les gens viennent du monde entier, hein, voir la rue Rouchet, c'est extraordinaire. Bon, mais le gros intérêt, c'est que c'est une rue dans laquelle on a plaisir à passer l'été, parce qu'elle est plus fraîche que les autres rues. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Quand vous parliez de la place de la Comédie, tout le monde n'est pas d'accord sur les arbres sur la place de la Comédie, il y a des discussions, nous on a donné nos avis, hein. Nous avons même fait une visite de la place avec des élus, et nous avons mis l'accent sur le fait qu'il fallait garder le patrimoine architectural visible, notamment la façade de l'Opéra, ce qui n'était pas le cas avec le premier projet. La ville en a tenu compte et maintenant nous attendons le résultat, mais au moins ça nous fera de la fraîcheur.
Alors, on va en rester là, Jean-Marie Kies. Peut-être un des mots que j'ai retenus, il y a l'idée de plaisir, hein, de qualité de vie des habitants et de plaisir pour tous ceux qui viennent dans le centre-ville et qui le fréquentent. Merci à vous.
Merci beaucoup pour cette interview et à une prochaine fois.
Certainement.
Au revoir.
Au revoir. Et merci. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.